les derniers messages sur la thématique de l'enlèvement de l'Église. Et j'espère que vous avez pu obtenir, au travers de ces nombreux textes que nous avons étudiés ensemble, d'ailleurs dimanche prochain, Dieu voulant, nous sortirons les brochures afin que vous puissiez vous servir et avoir les notes sous les yeux. Ces messages ne voulaient pas seulement être une étude un tant soit peu fouillée, une recherche biblique approfondie pour une vue d'ensemble et de grandir dans quelques connaissances, mais nous voulions avant tout nous préparer pour sa venue. Avant tout, nous réjouir parce que le Seigneur revient pour ceux qui l'attendent, ceux qui ont fait alliance avec lui, ceux qui l'aiment. Et notre amour pour Jésus va grandir alors que nous étudions la parole de Dieu. La parole, comme dira le psalmiste dans le psaume 119, elle réjouit mon cœur, elle réjouit mon âme et je me rassasie de ta parole. La Bible dit encore que heureux celui qui lit et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent, car le temps est proche. C'est vrai, personne ne sait ce que 2015 nous réserve encore. Et il peut y avoir des grandes surprises. Et nous savons que nous sommes dans un temps où les choses, non seulement sont en route, en mouvement, mais en accélération. Il y a des choses qui se sont toujours produites, mais nous sommes dans un temps d'accélération des événements. Et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Mais avant tout, comme nous l'avons fait ressortir à tout bout de champ, nous ne voulons pas simplement nous focaliser sur des événements pour dire « Ah, ça correspond à telle page de la Bible ou telle prophétie. » L'important, de toute façon, le Seigneur viendra quand on n'y pensera pas. L'important, c'est vraiment de vivre d'une manière correcte. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Est-ce que, depuis que nous avons étudié ce thème, est-ce que quelque chose s'est réveillé dans votre cœur ? Est-ce que quelque chose se lève dans votre cœur? Est-ce que quelque chose bouge? Est-ce qu'il y a un changement en vue? C'est ma question. Est-ce que quelque chose va redevenir une priorité à partir de maintenant? C'est ma question. Je voudrais ce matin, alors que nous voulons maintenant considérer la parole de Dieu, vous introduire dans un texte d'introduction dans le chapitre 12 des Hébreux, où il nous est dit, Hébreux 12, 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout ce qui nous empêche de progresser. Rejetons le péché. Appelons les choses par leur nom. Considérons le chemin qui nous est demandé, sur lequel nous devons marcher, à savoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Car il y aura en effet une différence entre ceux qui seront pris et pas pris. La Bible est claire. Cette nuée de témoins est là et parmi cette nuée de témoins de Hébreux chapitre 11, nous trouvons un homme duquel je veux vous parler ce matin. Un des deux personnages de l'Ancien Testament qui n'a pas connu la mort et qui a été enlevé. Il se trouve dans Hébreux chapitre 11. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent dire son nom. Il s'appelle Hénoch. Trois textes très courts parlent de lui. Et dans chaque texte, nous trouvons un élément qui éclaire sa vie et cet élément que nous allons découvrir ensemble va nous inspirer et nous motive à nous préparer, car la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Nous trouvons Hénoch dans Genèse chapitre 5, dans Hébreux chapitre 11 et dans Jude verset 14. Son nom veut dire « consacré ». Hénoch est l'image de la personne qui sera enlevée et qui est consacrée, mise à part pour Dieu. Elle est mise à part pour Dieu. Elle a une vie consacrée, elle a une vie qui est livrée entièrement entre les mains du Seigneur, une vie qui est dédiée à l'œuvre de Dieu et à la personne du Seigneur lui-même. Les trois aspects que j'aimerais voir ce matin, il plaisait continuellement à Dieu, Hébreux 11, 5, il témoignait courageusement de Dieu, Jude 14, et il marchait fidèlement avec Dieu, Genèse 5. Nous lisons donc dans Hébreux chapitre 11 maintenant et verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. J'arrête là ma lecture. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Comment est-ce qu'il nous faut comprendre plaire à Dieu ? C'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. C'est par la foi. La foi, c'est placer toute sa confiance dans le Seigneur. La foi, c'est déposer toute sa vie sans réserve et dans toute confiance, quel que soit le poids, quel que soit le contenu de notre vie, le passif ou l'actif, le plus et le moins. Je place toute ma vie entre ses mains avec une totale et entière confiance et je reste dans sa main et je reste dépendant de lui. C'est ça la foi. La foi, c'est cette confiance, quelles que soient mes situations, quels que soient même mes exaucements que j'ai reçus ou pas reçus, ou pas encore reçus, je lui fais confiance et je reste dépendant de lui. La foi d'Enoch le connecte tellement fort que dans toutes les phases de sa longue vie, car nous allons voir qu'il a vécu longtemps, dans les épreuves et les joies, il est toujours resté connecté. Frères et sœurs, retenez ça. Si vous voulez plaire à Dieu, restez connecté dans les bons et les mauvais jours, dans les hauts et les bas de la vie. Restez connecté, quel qu'en soit le prix. Et même si vous êtes seul à rester connecté à certains moments, restez connecté à Dieu, car c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu. C'est par la foi que nous recevons ce témoignage de Dieu lui-même. Cette personne me plaît parce qu'elle reste attachée à moi. Le lien est si fort entre Enoch et son Dieu. Cette connexion fonctionne tellement intensément qu'il n'y a pas d'autre emprise sur lui. Et il passera de la vie terrestre à la vie céleste. La connexion reste la même. Rien ni personne ne pourra toucher à cette relation. Elle restera toujours prioritaire. La foi, comme dira Jésus, si, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Gardez la parole. Gardez la parole. Enoch vivait donc dans un temps où, à la veille du déluge, ou bien en tout cas avant le déluge, et nous savons que dans ce temps, la Bible dit dans Genèse chapitre 6 en tout cas, que les gens étaient devenus de pire en pire, le monde devenait quasi irrespirable. Le monde était terrible, c'était un fardeau, c'était une angoisse de vivre du temps au temps qui précédait le déluge. Enoch a été mis dans ce temps-là, il constata la décadence morale de son temps et il savait au fond de lui que le monde mûrissait pour le jugement. Mais il porte dans un monde difficile, le témoignage en lui-même, je plais à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous avons ce témoignage de l'Esprit de Dieu à notre esprit qui nous dit, dans cette connexion, tu plais à Dieu ? Est-ce que nous avons cette connexion où l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit, tu plais à Dieu ? Tu marches avec moi, tu plais à Dieu par la foi et par cette confiance que tu as. Et dans ce temps difficile d'apostasie, il vivait d'une manière authentique et vraie. Et comme je l'ai dit, il était tellement connecté à Dieu qu'il n'était plus connecté au monde. Bien sûr, il vivait dans le monde, mais il n'était pas du monde, il n'était pas connecté intimement à ce monde. Est-ce que nous portons en nous ce témoignage du Saint-Esprit ? Tu plais à Dieu. Je plais à Dieu. Et je voudrais que le Saint-Esprit écrive au fond de votre cœur. Oui, tu me plais, parce que je sais que tu es connecté à moi en tout temps et en tout moment. Je sais que tu es connecté dans les hauts et dans les bas de la vie, tu restes, tu t'accroches et tu me plais parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi nous porte. C'est le cadeau de Dieu pour nous ce matin. Cette foi qui nous permet d'avoir ce témoignage, tu me plais. Et puis il nous est dit aussi que on ne le trouva plus. C'est qu'à un moment donné, on l'a cherché. Si on ne l'a pas trouvé, c'est qu'on l'a cherché. On s'est dit, mais Enoch, il n'est pas revenu de son champ. Il était parti labourer, puis on ne le trouve plus, il n'est plus là. Il manquait, certainement à sa famille, à d'autres, la nouvelle nature que Dieu place en nous, que Dieu met en nous, la nature de Christ, la nature spirituelle, est quelque chose qui attire les autres. Vous êtes pour les uns et pour les autres un parfum de Christ, quelque chose qui attire. Et le jour où vous manquerez, on vous cherchera pour ça justement, pour ce que vous avez rayonné de la part de Christ, ce que vous avez transmis de la part de Christ. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, toutes ces choses que Christ avait travaillées dans notre cœur, que Christ a travaillées durant notre marche chrétienne. Tout ce qu'il a fait ressortir de nous, eh bien tout ce qu'il a produit en nous par l'Esprit Saint, toutes ces choses précieuses un jour manqueront à la terre. Et à l'enlèvement, la terre sera appauvrie par ces millions de chrétiens qui partiront et qui enrichiront le ciel. Car le Seigneur sera venu moissonner et engranger ce qui lui appartient. Et la terre sera appauvrie et on cherchera. Intensément ces gens qui avaient ce quelque chose de plus, ce quelque chose d'indéfinissable, ce quelque chose qui fait ce pourquoi ils sont recherchés. Vous êtes recherchés. Vous avez l'impression peut-être d'être toute seule, que si vous veniez à manquer, peu de monde le remarquerait, mais si Christ est en vous, vous manquerez à quelqu'un. Si Christ est en vous, il y a une absence, un vide sur la terre. Et votre amour, votre Christ en vous, c'est un enrichissement pour votre environnement. Christ en vous enrichit le quartier dans lequel vous êtes, la maison dans laquelle vous êtes, le lieu de travail ou l'école où vous êtes. Christ en vous, c'est un plus. Même si on vous le dit peut-être jamais, mais c'est un plus. Et lorsque vous manquerez, ça se saura, ça se remarquera. Frères et sœurs, que vous ne soyez pas recherchés seulement pour ce que vous savez faire. On vient vous chercher, on téléphone parce que vous avez des compétences dans tel ou tel domaine et c'est pour ça qu'on a tout le temps besoin de vous. Mais lorsque on n'a plus de compétences ou quand on n'a plus grand-chose à donner, est-ce qu'on vous cherche encore pour ce que vous êtes? J'aimerais simplement que la nature de Christ en nous produisent cette attraction et qu'on nous cherche parce qu'il y a ce quelque chose de Dieu en nous, simplement. Parfois, je me demande si dans l'Église, s'il manque un tel ou tel chrétien, si son absence se remarque vraiment. Est-ce que l'absence de quelqu'un peut être au milieu de nous ce matin? Est-ce que c'est un vide? Est-ce que c'est un manque? Je crois que c'est toujours un manque, c'est toujours un vide. Quelle que soit sa personne, mais quelqu'un qui a fait l'effort de venir et qui veut s'édifier dans la foi, qui a Christ en lui, c'est un plus pour l'Église. Considérez toujours quelqu'un comme étant un plus pour la richesse globale de l'œuvre de Dieu et du Seigneur. Et un jour, ces chrétiens qui étaient souvent considérés comme des gens qui troublent la fête, des gens qui sont à part, qui ont d'autres idées, qui sont attachés à des absolus et que l'on conteste. Eh bien, l'apôtre Paul disait, nous étions le rebut du monde, les balayures du monde. Mais les balayures du monde sont les diamants de Dieu, sont les perles du Seigneur. Et si le monde ne nous considère pas, eh bien, le Seigneur nous considère, il viendra nous chercher. Il ne manquera pas de venir chercher ce qui a de la valeur. Parce que ce qu'il a planté en nous a une valeur éternelle. A une valeur éternelle. Ce qu'il a planté en nous, le monde peut-être ne le remarque pas. C'est comme des diamants qui sont sales ou qui sont peut-être enrobés de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur discerne au fond de nous cette richesse, cette valeur, et il viendra la chercher. Il prendra pour lui. Il ne laissera rien. J'aimerais maintenant, après avoir parlé de ce texte de Hébreux chapitre 5 où Hénoc reçoit le témoignage de plaire à Dieu et d'avoir été un homme qui a été recherché aussi parce qu'il marchait avec Dieu, voir avec vous dans Jude 14, vous tournez juste quelques pages et vous trouvez cette petite lettre de Jude juste avant l'Apocalypse, 25 versets seulement. Nous trouvons au verset 14 juste le nom de Hénoc à nouveau. C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous, tous les impies, et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Jude, on ne lit pas souvent sa lettre, mais Jude appelle au combat de la foi. Il est un homme qui exhorte d'une manière spécialement sévère. Et il dira que sans la repentance, les hérétiques, les moqueurs, les apostats seront mis devant l'évidence du jugement et de la condamnation. Et tout à coup apparaît dans ces quelques versets d'exhortation très solides, apparaît de nulle part le nom d'Hénoc. Il aurait pu parler de Samuel, de David, d'Abraham, Isaac, Jacob, etc. Mais il parle de Hénoc. Et pour ne pas qu'on le confonde avec un autre, il va dire que c'est le septième depuis Adam. Que finalement, Hénoc aussi, de la même trempe que Jude, a prêché en son temps. Exhorté fortement, comme Jude le fait, d'une manière très, très solide. Vous lirez le texte, ce n'est pas notre propos ce matin. Et il va dire dans cette génération prédiluvienne: mes amis, si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur du jugement. Vous allez droit vers ce temps qui s'appelle la condamnation et le jugement du Seigneur. Et Jude, à sa manière, et Hénoc, à sa manière, vont dire tous les deux, et je ne sais pas si vous avez remarqué ces quatre tout au verset 15, le jugement est pour tous, pour faire rendre compte à tous, tous les actes d'impiété et toutes les paroles dures. Finalement, il y a un message là qui doit être accentué. Et Jude, alors qu'il prêche et qu'il prophétise, il reçoit soudain, alors lui qui a vécu juste le septième depuis Adam, il reçoit la révélation du retour de Jésus. Rendez compte. Alors qu'il parle et qu'il sent que bientôt viendra un temps de jugement qui sera le déluge, il voit déjà le retour du Seigneur avec ses troupes, avec son peuple, avec ses rachetés, ses élus et tous ses anges en puissance. Et le Seigneur est revenu avec ses saintes myriades pour un temps de jugement. Il prêche le retour de Jésus, car il l'a vu en révélation. Et non seulement il va prêcher cela, mais il est lui-même un signe prophétique pour sa génération. Frères et sœurs, nous devons être un signe prophétique pour notre génération. Nous devons être un signe prophétique, non seulement parce que nous disons, mais parce que nous vivons. Parce qu'Hénoc marchait avec Dieu, il plaisait à Dieu. Et j'apprends donc deux choses, courtement. Hénoc, l'homme consacré, nous avons dit qu'Hénoc veut dire consacré. L'homme consacré va parler du retour de Jésus. Frères et sœurs, il ne faut pas seulement que depuis le haut de l'estrade ici, on parle du retour de Jésus. Vous aussi parlez du retour de Jésus. Hénoc parlait du retour de Jésus. Hénoc parlait du retour du Messie, du retour du Sauveur. Parlons courageusement du retour du Seigneur. De Timothée 4, Paul va dire à Timothée, chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu, devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. » Et au nom de son apparition, donc au nom de son arrivée et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Sois sobre, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'apôtre Paul dira à Timothée, Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Mon frère, ma sœur, il faut que tu parles aussi du retour de Jésus, comme Enoch l'a fait en son temps. Deuxième chose que je vois, c'est que l'homme consacré, Enoch, femme consacrée d'aujourd'hui, ne manque pas d'apporter cette note peu populaire qui est le jugement. On aime parler de l'amour de Dieu, du Dieu qui guérit, du Dieu qui restaure, du Dieu qui fait du bien, du Dieu qui nous exauce, du Dieu qui... Tout ça, c'est l'Évangile. C'est important. Et on a tellement besoin de l'entendre et de le réentendre. Mais Enoch a eu le courage de parler aussi du jugement. Et nous ne devons pas cacher cet aspect-là. Et je rappelle que ces quatre tous montrent l'intensité et la force et l'importance de se préparer afin d'échapper au jugement. C'était un homme qui parlait du retour de Jésus et qui parlait aussi du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9. Et troisième et dernier passage, dans la Genèse maintenant, au chapitre 5, je vois avec vous une notion encore qui est soulignée dans ce petit texte qui fait partie de cette généalogie d'Adam à Noé, où nous trouvons justement Enoch. Et nous voyons, après avoir parlé, qu'il plaisait toujours à Dieu, qu'il témoignait courageusement dans un temps difficile de sa foi, du Seigneur qui revient et de la préparation indispensable. Maintenant, nous le voyons au chapitre 5, verset 21, et nous lisons juste ces quelques versets. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusalem. Après la naissance de Methusalem, marcha 300 ans avec Dieu, il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et j'aimerais finaliser ce message par cette notion sur laquelle on pourrait parler beaucoup, mais que j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit la plante dans votre cœur, dans notre cœur. Nous devons, comme Enoch, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Est-ce qu'on veut dire ensemble, je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Chaque jour, je veux marcher avec lui. Nous voyons dans cette généalogie du chapitre 5 que, lorsque vous la lisez, chaque patriarche vivait longtemps. Bien sûr, ça nous frappe beaucoup. Mais il y a un petit refrain, il vécut, puis il mourut. Il vécut et il mourut. Les uns, et ce même refrain revient, et puis il y a un stop avec Enoch, qui lui n'a pas vécu pour mourir, mais il a vécu pour vivre, et pour ne plus jamais s'arrêter de vivre. Cette interruption avec Enoch montre que la vie est définie par autre chose que de longues années de vie sur la terre. Mes amis, si vous marchez avec Dieu, votre longueur de vie, ce n'est pas ce que la Bible retient, ce n'est pas ce que Dieu retient avant tout. La Bible ne retient pas toutes les réalisations d'Enoch. Elle n'en parle même pas. Elle retient seulement qu'il a marché avec Dieu. Sa vie était définie par le fait qu'il marchait avec Dieu, et non seulement parce qu'il vécut longtemps et qu'il mourut après. Quelle que soit la longueur de votre vie, c'est sûr qu'on aimerait tous vivre vieux. Tout le monde veut être vieux, mais personne ne veut mourir. Quelle que soit la longueur de notre vie, une vie peut être remplie, peut être complète, lorsqu'on marche avec Dieu. Pour Dieu, c'est ça qui compte. Tu peux être complet dans ta vie si tu marches avec lui, quel que soit le nombre d'années. Car ce ne sont pas avant tout les actions, les actes, les réalisations d'Enoch qui nous sont retenu dans la Bible, mais c'est surtout sa marche avec Dieu que la Bible retient. Il marcha avec Dieu, puis Dieu le prit. Dieu l'a pris souverainement. Une biographie si courte, ramassée en quelques paroles. Voilà ce qui comble une vie. marcher avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un appel extraordinaire pour marcher avec Dieu. C'est notre appel à tous, marcher avec le Seigneur. Pas besoin d'un grand ministère, marcher avec Dieu, jour après jour. Et vous remplissez bien votre ministère en marchant avec le Seigneur. Voyons trois éléments dans ce texte. Pour marcher avec Dieu, il faut tout d'abord être d'accord de marcher avec lui. Ça paraît évident. Et pourtant, Amos chapitre 3, verset 3 nous dit « Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord ?» Vous devez d'abord vous mettre d'accord de dire « Est-ce que tu es d'accord de marcher avec moi ? Est-ce qu'on peut faire quelques pas ensemble ?» Il faut se mettre d'accord. Dieu est toujours d'accord de marcher avec nous. C'est pourquoi il faut être un homme et une femme décidés. Est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous avez choisi de marcher avec Dieu ? Marcher avec Dieu implique d'être ensemble, au même endroit, dans la même direction. Il faut être d'accord. Dieu lui disait, Enoch, où veux-tu que nous marchions aujourd'hui ? Enoch disait, Seigneur, où est-ce qu'on peut marcher ensemble aujourd'hui ? Dans notre vie de tous les jours, emmenons le Seigneur dans tous nos projets, dans toutes nos activités, au travail, à la maison. Seigneur, je marche côte à côte avec toi dans telle ou telle chose et je ne veux pas aller là où toi tu diras stop, là je n'y vais pas. Ça, c'est, si tu veux y aller, tu peux y aller, mais moi je ne marche pas avec toi. Est-ce que nous allons ensemble dans des directions que Dieu approuve ? Est-ce que nous faisons ensemble des choses que Dieu approuve ? Est-ce que nous regardons ensemble des choses où le Seigneur peut être avec nous dans le fauteuil pour regarder ceci ou cela ? Nous devons convenir pour marcher ensemble. Nous devons être d'accord. Nous devons en avoir le désir. Et lorsque vous marchez ensemble, en tout cas, ça c'est mon cas, j'aime parler quand on marche ensemble. On peut bien sûr aussi marcher ensemble en silence, mais à un moment donné, ça devient lourd. Mais quand je dis à Jenny, je lui dis, est-ce qu'on peut sortir et marcher un petit peu ? Et quand elle dit oui, je suis très heureux parce que c'est un moment où, bien sûr, je pourrais à la maison autour de la table dire les mêmes choses, mais le contexte de la marche est favorable à la discussion. En tout cas, moi, je suis fait comme ça. Ça fonctionne pour moi. Quand on marche ensemble, on dialogue, on échange, on parle ensemble, on partage, on marche ensemble pour avoir des choses à communiquer. Donc, il faut se mettre d'accord pour marcher ensemble. Ensuite, deuxièmement, la marche commune implique une amitié. Ce qui comptait pour Enoch, ce n'était pas avant tout que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne du succès, que Dieu exauce ses prières, que Dieu fasse de grands miracles pour lui. Ce qui comptait avant tout, c'est que Dieu soit son ami. L'amitié, la présence de Dieu était fondamentale pour lui, était capitale pour lui. Frères et sœurs, je crois que plusieurs chrétiens vivent dans des crises spirituelles parce que Dieu n'a pas fait ceci ou cela pour eux, alors qu'ils ont tant prié, même jeûné pour cela. Ils ont tant cru que Dieu devait faire quelque chose, que Dieu était obligé de les aider, d'intervenir. Mais quand Dieu, qui est souverain, ne l'a pas fait en son temps, ils sont totalement déstabilisés et leur foi passe une crise. C'est la crise de la foi ou une crise de foi, comme vous voulez. Mais le chrétien qui marche avec Dieu prend la présence de Dieu comme une priorité. Que Dieu agisse ou qu'il agisse plus tard. Je sais que Dieu, mon ami, a entendu mon soupir le plus secret, a entendu le cri de mon cœur, connaît si bien le désir intérieur que je porte. Il sait que lorsque je marche avec lui, mon ami me connaît si bien qu'il ne m'oubliera pas. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne peut pas parce qu'il a fait alliance avec toi en Christ. Il ne peut pas nous oublier. Lorsque nous marchons côte à côte, le Seigneur est proche de nous et il ne peut pas nous oublier, non. Et cette marche, j'aimerais mettre l'accent sur la qualité de la marche chrétienne. La qualité, marcher non pas comme deux inconnus, mais comme deux amis. Peut-être ce matin, il faut dire, Seigneur, j'aimerais connecter un peu plus dans l'amitié avec toi. J'aimerais pas seulement que tu sois le Dieu qui fait de grandes choses, qui est le Dieu tout-puissant, mais Dieu, mon ami, proche de moi, celui qui m'aime, celui qui est toujours là. Ne bradez jamais la qualité de votre relation avec le Seigneur. Mon âme languit après toi. Rien ne surpasse ma relation avec lui. Dieu n'est pas un moyen pour avoir plus de choses, mais Dieu est le but de ma vie. Sa présence me suffit. Sa présence me comble. Et même si je devais être dépouillé de tout, sa présence serait quand même encore toute ma richesse. Alléluia. Pourquoi la marche avec Dieu est tellement importante? C'est que la marche avec les gens, même des gens proches, même un conjoint, ça dure un temps. Mais la marche avec Dieu dure pour l'éternité. Nous marchons avec lui parce que la marche ne s'arrêtera jamais. Et un petit détail qui m'a frappé aussi, c'est qu'il nous est dit que la longueur de sa vie fut 365 ans. Comment ne pas penser que dans l'année, il y a 365 jours et que Enoch était un homme qui marchait 365 jours et chaque jour est devenu une année, il a marché chaque jour avec Dieu. Mon frère, ma sœur, marche chaque jour avec ton Dieu. 365 jours par année, marche avec lui et n'en rate aucun. Et je termine maintenant, après avoir parlé qu'il faut se mettre d'accord pour marcher avec lui. Il faut se décider, il faut donner la main d'association au Seigneur, il faut choisir, il faut se décider pour Dieu. Il faut vivre une qualité d'amitié intense. Et je termine parce que je crois fermement que la marche avec Dieu est une force, communique une force incroyable. Parce que lorsque vous n'avez plus de force, lui, il amène ses forces. Lorsque vous n'avez plus de force, lui vous portera encore, vous soutiendra encore. Et j'aurais voulu vous montrer, mais je n'ai pas eu le temps de chercher une photo lorsque j'étais au service militaire. Vous aimeriez bien voir ça, mais peut-être un jour je vous montrerai. Et là, nous avons vécu, je l'avais déjà vécu avant en tant que civil, ce qu'on appelle en Belgique la marche du souvenir. La marche du souvenir, parce qu'elle rappelle la fameuse bataille des Ardennes, 44-45. Et chaque jour, nous marchons entre 30 et 40 kilomètres. Et bien sûr, en tant que civil, parce qu'il y a des milliers de gens qui font cela, vous pouvez vous arrêter, boire, vous pouvez toujours continuer. Mais alors, quand vous êtes à l'armée, il fallait marcher avec tout son barda, comme on dit, son gros sac à dos, son fusil d'assaut, etc. Et puis, non seulement cela, mais il faut marcher en rang et au pas toute la journée. Et on restait dans les rangs, quatre de front, et tout le bataillon était donc rangé dans cette marche, du matin jusqu'en fin d'après-midi. Quel que soit le temps, la pluie, on était en rang et on restait dans les rangs et on marchait, on comptait, on chantait, on devait garder la cadence tout le temps. Mais le fait que vous gardez une cadence, ça vous fait oublier la fatigue. Et personne n'a quelque part le droit de ralentir ou de dire « j'ai tellement mal aux pieds, vous ne pouvez pas ». Par contre, ce qu'on faisait, et j'ai ce souvenir extraordinaire d'avoir été, je crois que j'étais dans un des premiers rangs à un moment donné, et le copain à côté avait tellement mal aux pieds. Vous savez, on avait des chaussures qui montaient jusque-là, des grosses chaussures de cuir, et il avait tellement des cloques qu'il souffrait à chaque pas qu'il faisait. Et nous étions là, dans notre rang, l'un prend le fusil, l'autre prend le sac à dos. Et chargé de deux sacs à dos ou de deux fusils, nous étions en train de l'épauler pour le faire marcher au pas jusqu'au bout. Incroyable. Et lorsque nous arrivions fatigués, bien sûr, transpirants et fatigués, nous arrivions et nous voyons la caserne où nous devions donc arriver. Alors le commandant était là et nous disait « Maintenant, vous ne laissez paraître aucune fatigue. Vous relevez la tête, vous marchez droit, vous dépassez les autres et vous montrez que vous êtes des soldats du 12e de ligne. » Et là, je me vois encore arriver dans cette étape finale, les derniers 500 mètres, avec ce copain qui souffrait, mais il n'était pas abandonné. Sa marche personnelle aurait été un ralentissement, puis il se serait arrêté. Mais le fait que nous étions ensemble, nous étions un corps, bien sûr obligés parce qu'on était à l'armée, mais on se soutenait tête haute et on marchait et on arrivait au but, la tête haute et au garde à vous encore à la fin. Mes amis, c'est comme ça que l'Église doit être enlevée. Frères et sœurs, nous marchons dans l'amitié, nous marchons dans la solidarité, dans l'unité. Nous marchons, même si l'un souffre, l'autre souffre, eh bien, nous nous épaulons pour qu'aucun ne se perde et que nous arrivions tous comme des vainqueurs dans la maison du Père. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions, en ayant parlé de l'enlèvement, du retour proche du Seigneur, nous puissions prendre inspiration sur Hénoch, qui plaisait à Dieu par sa foi, qui témoignait courageusement du retour de Jésus et de sa foi, et qui marchait avec Dieu.